France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Quand le monde tangue et qu'on a le sentiment qu'il faut s'accrocher au bastingage, c'est important d'essayer de digérer et puis de comprendre. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble, parce que oui, l'époque est anxiogène, on va pas essayer de se le cacher. Si vous êtes comme nous tous ici autour de la table, vous avez eu une sorte de vertige la semaine dernière, un peu aussi la semaine précédente, avec un Donald Trump qui retourne intégralement la casaque américaine, qui traite Zelensky de dictateur sans élection, qui reprend les éléments de langage russe, faux surtout, notamment sur le taux de popularité du président ukrainien. Trump qui entend imposer une paix seul avec Poutine, qui met l'Europe en situation de faiblesse, qui ment sur les aides américaines à l'Ukraine et entend se faire rembourser en exploitant tous ses métaux rares. Juste avant, il y a eu Munich et la claque du vice-président J.D. Vance qui envoie à tous les Européens chaos dans les cordes en fustigeant nos choix et aussi nos démocraties. Quand je disais le monde tangue, nous voici avec le sentiment d'être à un moment de bascule où nous pouvons à tout moment tomber, mais vers quoi ou tomber dans quoi? Est-ce que l'ordre mondial tel que nous le connaissons depuis 1945 est en train de voler en éclats? Est-ce que ça veut dire qu'il faut potentiellement se préparer à une guerre, une autre guerre, plus près de nous encore que celle qui secoue l'Ukraine? Est-ce que nous venons d'entrer dans une sorte d'autre normalité parce que les États-Unis ont décidé de lâcher l'Ukraine et l'Europe en même temps, parce que les États-Unis sont en train d'imposer leur vision du monde? Ajoutons-y des points d'interrogation, parce que ajoutons également que c'est pas la première fois. Pourquoi celle-ci est très différente? L'est-elle réellement? Parlons-en ensemble, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Nadine, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue, bonsoir.
Merci beaucoup Fabienne, bonsoir à tous et merci de me donner la parole. Hier j'ai écouté dans sa quasi-intégralité le retour de la presse par rapport à la conférence de presse qui a été donnée par messieurs Macron et Trump. Et j'avoue que j'ai été assez sidérée par ce que j'ai considéré comme étant un peu un spectacle. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de désinvolture de la part des deux camps, alors qu'on parle de la guerre en Ukraine qui a démarré depuis 3 ans maintenant, qu'on a évoqué une possibilité d'une troisième guerre mondiale. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'il fallait retenir de ces discours de part et d'autre, dans le sens où, personnellement, j'ai trouvé que c'était très vide, j'ai pas trouvé de sens. Et ça, c'est mon commentaire. Ouais. Et ma question, justement, c'est que faut-il retenir de cette entrevue entre messieurs Macron et Trump hier?
Eh ben, Nadine, merci beaucoup pour votre question, parce qu'il y a beaucoup de choses et on sera heureux d'essayer d'y répondre pour discuter en tout cas ensemble jusqu'à 20h autour de cette table. Il y a Marion Van Rentergem, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Grand reporter Marion, vous écrivez aussi notamment pour l'Express, il y a Corentin Célin qui est historien spécialiste de politique américaine, vous êtes professeur en classe prépa au lycée Carnot de Dijon, Corentin, et vous écrivez dans Les Jours. Pierre Aski est là également, bonsoir Pierre.
Bonsoir.
L'éditorialiste géopolitique de France Inter, Pierre Aski, c'est vous. C'est vers vous que je vais me tourner d'abord pour la question de Nadine, qui a d'abord parlé du spectacle et de la désinvolture, ce sont ces mots. Vous y étiez dans le bureau ovale à ce moment-là. C'est vrai que la gestuelle, elle a de l'importance. Hein. On a vu qu'on se tape sur les cuisses, etc. Mais ça dit quoi, la gestuelle?
Alors, je suis d'accord que c'était un spectacle. Et on est sur une scène.
Et vous étiez très nombreux, par ailleurs, dans la Maison Blanche.
Absolument. Et Donald Trump adore cette mise en scène. Il est le maître des lieux, le maître de la chorégraphie. Mais ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que pour parler à Donald Trump, il faut en passer par là. Ah ouais. Aller à Washington pour dire ces quatre vérités à Donald Trump, c'est pas la peine de faire le voyage parce que ça ne produira rien. Ouais. Et Emmanuel Macron a ce rapport personnel qu'il a construit au cours du premier mandat. Il l'a rencontré de nouveau à l'inauguration de Notre-Dame il y a quelques semaines. Et il a compris qu'il fallait d'abord flatter, d'abord créer cette connivence avant de pouvoir lui dire le contraire de ce qu'il pense.
Alors il lui a dit d'ailleurs un peu, mais quand vous dites d'abord flatter et avoir cette gestuelle avec lui, vous avez raison Pierre, sauf qu'il l'a déjà fait. En 2017,
bien
quand
sûr,
il essayait aussi exactement de la même manière sur l'Iran et sur l'accord de Paris, il a essayé la même chose et puis à la fin ça n'a rien donné.
Ça n'a rien donné. Ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est aussi apporter la voix de l'Europe, de l'Ukraine, c'est-à-dire des absents. Il y a 10 jours encore, on était là à se dire mais cette paix va se faire entre deux hommes, entre Trump et Poutine, sans l'Europe et sans l'Ukraine. Là, aujourd'hui, Trump, au moins, c'est peut-être, ça ne changera peut-être rien sur le fond, est exposé à la rationalité ou aux arguments des Européens. Il va recevoir Volodymyr Zelensky dans quelques jours. Il va recevoir aussi Keir Starmer, le Premier ministre britannique.
Je le dis, ouais.
Donc, il y a une... au moins une tentative de faire entendre ce son de cloche à un président américain qui a la tête pleine des réseaux sociaux et de la propagande russe, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, c'est qu'il est aujourd'hui dans un rapport à la Russie qui est d'une certaine fascination. Et il y a eu un moment dans ce bureau ovale qui était très troublant, c'est quand quelqu'un lui a demandé « Est-ce que vous emploierez le mot dictateur à propos de Poutine comme vous l'avez employé pour Zelensky ?» Il a esquivé la question, il a refusé de répondre. Et au même moment, c'est son ambassadrice à l'ONU votait avec les Russes contre les Européens, ce qui est sans précédent dans une période de crise.
On va y venir, et notamment d'ailleurs sur ce que ça a pu provoquer chez les Européens, Marion Van Rentergem, mais juste avant, Corentin Célin, sur ce qu'on a vu dans le bureau ovale, ce qu'on a vu de Donald Trump, moi j'ai envie de vous poser la question comme ça, est-ce qu'il est en train de vivre sa meilleure vie, Donald Trump ? Parce que c'est aussi de ça dont on parle, en fait.
Oui, alors, il est en train de vivre sa meilleure vie parce que dans son argumentaire hier, il y a un mot qui revient toujours parce que c'est très populaire avec son électorat, c'est le mot de paix. Il se présente en l'homme de la paix. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez souligné dans les raisons de sa victoire, c'est que il dit aux Américains assez de ces longues guerres interventionnistes qui nous ont tant coûté et sans rien nous rapporter, on y reviendra sans doute, Irak, l'Afghanistan, et moi je suis l'homme de la paix, je n'engagerai plus le sang américain sur ces conflits loin et hier. Il a repris cette antienne et on se demande, quand il le fait, s'il s'adresse vraiment, j'allais dire, au monde ou avant tout à la population américaine et à son électorat pour lesquels ça a été vraiment un motif de vote très important.
Marion Van Rentergem, est-ce que justement si le refrain de Donald Trump c'est de dire « je suis l'homme de la paix », si au fond il reprend la rhétorique poutinienne aussi, qui même si on n'en croit rien, dit aussi « mais nous sommes pour la paix », est-ce qu'à la fin on finira par se dire « mais au fond il n'y a que nous, les Européens, qui ne disons pas « nous sommes pour la paix » aussi clairement que ça et qui sommes, j'y mets des guillemets, on en parlait avec Frédéric Saïs tout à l'heure, un peu les va-t-en-guerre en fait dans le monde aujourd'hui.
Alors c'est vrai que nous sommes dans une très grande solitude et que l'Occident, en tant que notion politique, culturelle, idéologique, et il y a eu un véritable schisme, c'est-à-dire que les États-Unis en sont partis. Alors nous restons un peu les représentants, les derniers représentants d'un Occident dans la mesure où nous croyons encore et nous sommes, nous Européens, nous Union Européenne, mais pas seulement au-delà, je parle, on peut s'étendre au Canada, à la Corée du Sud, au Japon, à l'Australie, enfin, nous sommes encore quelques-uns à être attachés à l'ordre international qui a été construit par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale et qui vise à instaurer un multilatéralisme, c'est-à-dire des relations entre États fondées sur le droit et non pas sur la force. Et l'Union européenne est faite de ça, elle fonctionne comme ça, c'est sa nature, c'est son existence et son identité. Et nous sommes un peu désemparés par le fait que cet ordre a été brutalement cassé par Donald Trump, qui, en donnant raison et en épousant en effet la parole de Vladimir Poutine, a légitimé l'annexion par la force d'un pays et a mis en miettes finalement tout ce principe de l'inviolabilité des frontières, tout ce qui fonde cet ordre international. Alors, pour répondre à la question de Nadine sur le qu'est-ce qu'il faut retenir de ce dialogue, je pense, comme Pierre a très bien raconté, le fait que la mise en scène joue son rôle et que avec quelqu'un comme Donald Trump, il est difficile de savoir quel argument va l'emporter. Il est difficile aussi de savoir dans quelle mesure, et c'est quand même essentiel à mon avis, la clé de tout, c'est dans quelle mesure il est soumis à Vladimir Poutine ou non? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre possible? Parce que jusqu'à présent, il a donné le sentiment qu'il épousait totalement son discours. Et ce qui peut... Emmanuel Macron, et il est légitime, il faut bien dire qu'il a eu raison d'aller là-bas. Il faut saluer cette action, il faut le faire. Et il est le seul légitime, finalement, avec Keir Starmer, dans la mesure où ce sont les deux seuls dirigeants de puissance dotée de l'arme nucléaire. Et ça, ce sont... des arguments que Trump, qui ne connaît que la force, qui fonctionne comme un gros cow-boy brutal, entend un peu. Et ce qui peut générer, ce qui peut sortir d'un dialogue comme ça avec tout à la raison, Nadine, de parler d'une mise en scène, oui, on se tape sur l'épaule, on rigole un peu et on a l'air très insouciant, c'est une espèce de goutte à goutte. Il faut essayer de faire changer un peu de direction ce cerveau de Trump qui est compliqué à déchiffrer.
Alors, compliqué à déchiffrer, surtout imprévisible, parce que... aller savoir ce qu'il peut imaginer demain, après-demain, et même après, ou oublier, ou sur quoi revenir. Mais je voudrais un instant revenir sur ce que vous disiez, Marion. Est-ce qu'on sait, Pierre Haski, ce qui a réellement poussé Trump à épouser la cause de la Russie? Est-ce qu'on sait dire pourquoi, pardon de le dire comme ça, mais pourquoi il se lève un matin en se disant « Zelensky est un dictateur, désormais c'est avec la Russie qu'il faut que je discute ».
Alors, il y a une thèse qui veut qu'il ait tenu par la Russie. Il y a eu des livres et des films sur le sujet.
Un compromate, comme on dit, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose contre lui, ça paraît quand même...
Voilà, mais on n'a jamais apporté la preuve définitive de ce phénomène. Moi, je pense que c'est d'une autre nature. Trump impose aujourd'hui une présidence qu'on peut qualifier d'impérial et qui tient beaucoup d'ailleurs à la mentalité du 19e siècle, la construction des empires, les sphères d'influence, etc. Et il se reconnaît dans ses pairs que sont Vladimir Poutine ou Xi Jinping ou Erdogan en Turquie. Et là, on est dans quelque chose de ce rapport entre hommes forts et dans lequel le droit des petits pays ne compte pas, le droit des peuples ne compte pas, seul compte la volonté des grands États, des empires, et les empires par définition ne connaissent pas de frontières fixes. Et il faut se souvenir quand même de tout ce qu'on a entendu au début sur le Canada, le Groenland, etc. C'est une logique impériale et son modèle, je termine là-dessus, son modèle, c'est le président McKinley qui était au tournant du 20e siècle, qui a été qu'on avait qualifié de président impérial. C'est lui qui a conquis les Philippines, qui est allé pour la première fois en dehors du continent américain conquérir d'autres terres.
Et qui a retrouvé sa montagne en Alaska depuis peu. Quand j'entends cette description de Pierre Haski, Corentin Salin, je me dis au fond que ce qu'il adopte à l'extérieur ressemble exactement à ce qu'il adopte à l'intérieur. Pierre disait les petits États ne comptent pas, les petits pays ne comptent pas. À l'intérieur, c'est pareil. Au fond, les petites gens ne comptent pas. Seuls comptent ceux qui l'entourent. Une espèce de petit aéropage de gens qui se disent supérieurement intelligents, etc. Ça marche pareil, non?
Oui, et surtout, enfin, si on fait le croisement intérieur-extérieur, c'est une autre raison de son changement en faveur de Vladimir Poutine. C'est que Vladimir Poutine, pour tout le conservatisme états-unien maintenant à la sauce Trump, et on l'a vu lors du discours de Jill Evans à Munich, qui était très inspiré de discours précédents de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'est un modèle pour les conservateurs américains aujourd'hui parce qu'il le voit comme Poutine s'est affirmé depuis une quinzaine d'années, le défenseur. Poutine a dit « Je suis le défenseur de l'Occident contre une immigration incontrôlée qui va submerger le modèle occidental. Je suis le défenseur des valeurs traditionnelles contre eux, ce qu'ils appellent le woke, c'est-à-dire les droits LGBTQ+, et les conservateurs américains, et Trump le premier. Et c'est là aussi, parce que vous disiez, il s'est levé un matin, mais il ne s'est pas levé un matin. Trump tenait déjà des propos extrêmement durs durant la campagne contre Zelensky. On pensait qu'il allait se modérer. Zelensky a essayé de le jouer un petit peu, d'ailleurs, comme le président Macron hier, sur le contact personnel, en essayant de l'amadouer. Mais Trump, ça fait 10 ans qu'il avoue son admiration pour Poutine. Il a entraîné avec lui tous les conservateurs américains et a fait émerger des figures comme Jed Evans, qui est encore plus proche, je pense, de ce poutinisme, j'allais dire, idéologique. Il y a vraiment une convergence idéologique et c'est aussi pour ça. Donc, convergence idéologique, j'allais dire, sur l'intérieur, qui se traduit en un rapprochement en politique extérieure.
Retour au standard, c'est Thierry qui nous y attend. Bonsoir Thierry.
Oui, bonsoir. On vous écoute. Merci de prendre mon appel. Merci infiniment pour vos émissions. Merci, un grand merci. Oui, simplement, j'ai réagi par rapport au lancement de l'émission et notamment l'information, toutes ces informations angoissantes qui nous arrivent en ce moment. Alors, je vais vous expliquer. Nous, mon épouse et moi, depuis la crise Covid et encore plus depuis la guerre en Ukraine, on a largement, très largement coupé avec l'information. Sauf avec un petit peu de parcimonie, comme c'est le cas à l'instant. Et oui,
on a échappé à la purge.
Exactement. Et en fait, c'est une histoire, on se l'est dit avec mon épouse, de protection de notre santé mentale par rapport à toutes ces angoisses et particulièrement par rapport au sujet que vous évoquez ce soir.
Ben, je peux vous comprendre, Thierry, et merci de nous le dire. Marion Van Rentergem, c'est vrai que l'actualité est anxiogène jusqu'à un vrai point. Il y a des mots qu'on a prononcés. On a prononcé le mot de Troisième Guerre mondiale, on a prononcé des choses aussi hautes que ça quand même. Est-ce qu'il faut effectivement faire le tour de cette question-là, poser cette vraie question-là, le mettre sur la liste des risques potentiels?
On n'a jamais été aussi près, en tout cas on est sur une crête, alors ça peut très bien, on peut se maintenir sur cette crête, mais c'est vrai que ce pourquoi nous nous battons, c'est d'essayer de l'éviter, sachant que la paix que propose Vladimir, que propose Donald Trump en offrant finalement à Vladimir Poutine une capitulation, une reddition, fait penser, il faut se méfier des amalgames et des comparaisons dans l'histoire, mais deux personnes qui se partagent un pays qui ne leur appartient pas, ça rappelle quand même les accords de Munich de 1938 qui n'étaient pas la fin de la guerre mais le début de la guerre. Et donc cette illusion qu'en ne faisant rien, qu'en montrant pas de douce et qu'en essayant de se dédouaner en finalement en donnant à manger aux ogres pour essayer de les calmer, ça a longtemps été prouvé dans l'histoire que ça faisait plutôt que susciter leurs appétits. Donc moi je comprends très bien les auditeurs et j'ai des amis qui me disent moi j'en ai marre, j'écoute plus, je ne lis plus les journaux, j'écoute plus la radio et pourquoi pas, chacun vit sa vie comme il l'entend. Moi, ça me calme plutôt mon angoisse d'essayer de m'informer et d'en parler.
Je suis assez d'accord, essayer de comprendre.
Et de résister, chacun réagit comme il le pense.
Mais effectivement, et si on doit faire des comparaisons, alors il n'y avait pas d'Union Européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, à l'époque de l'autre Munich, j'allais dire, et si on veut regarder le verre à moitié plein quand même, on a, regardez là, les crédits d'armement en Angleterre qui sont en train de monter en flèche, regardez ce qui se passe en ce moment avec la Pologne, regardez ce qui se passe avec l'Allemagne, enfin ce sont des mots quand même qui sont extrêmement, qui résonnent extrêmement fort que de dire désormais il dit pas comme ça, mais enfin notre parapluie n'est plus les États-Unis, c'est quasiment ce que dit Merz aujourd'hui, donc est-ce que ça ne nous renvoie pas quand même à une capacité qui est la nôtre de réagir et qui met un peu qui rend ce verre un peu à moitié
plein. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'il y a en effet l'attitude de Trump, le fait que nos alliés dont nous craignons, enfin quand on voyait arriver Trump, on croyait éventuellement qu'il soit désengagé, mais on se rend compte qu'il est soumis à Poutine et qu'il se retourne même contre nous. Donc c'est vraiment un scénario qu'on n'avait pas attendu. Et la limite du pacifisme, je pense que nous sommes tous des pacifistes, ou alors il faut être un peu taré pour vouloir vraiment la bagarre et la guerre, mais la limite du pacifisme, c'est de rester pacifique quand les autres vous déclarent la guerre et veulent vous détruire. Donc il y a un moment où on est un peu obligé de réagir, et nous sommes dans cette situation-là, c'est-à-dire que tout en étant plein de bonne volonté, et l'Union Européenne, Dieu sait si elle l'a été, c'est une fabrique, une usine à paix. Elle est née pour la paix, par la paix, et elle a été malheureusement un peu aveuglé et endormi par cette espèce de longue naïveté, ce qu'on appelait d'ailleurs profiter des dividendes de la paix, et de se dire, ça y est, c'est fini, on a réuni tout le monde, nous sommes un grand marché, et plus personne ne viendra. Et voilà, la guerre nous arrive, des gens nous sont hostiles, nous détestent, Vladimir Poutine déteste ce que nous sommes comme modèle, il déteste notre liberté, il déteste notre mode de vie, il déteste notre état de droit,
Américains détestent notre démocracie, notre mode de fonctionnement.
Et les Américains maintenant s'y mettent aussi. Ouais. Donc il y a un moment, soit on capitule, on est vassalisé totalement, on est assoupi et à la merci de ces grandes puissances qui tendent à la dictature. Trump n'est pas encore un dictateur, mais il y a quelques signes, en tout cas, d'illibéralisme qui se mettent en place aux États-Unis, et pas qu'un peu. Xi Jinping, qui reste silencieux, mais n'est pas une démocratie. Poutine est une dictature agressive, impérialiste, hégémonique. Et c'est difficile pour nous, de, si on tient un peu à ce que nous sommes, à notre démocratie, à notre modèle, de rester sans rien faire.
Pierre Aski, des moments de tension, des moments de crise en Europe, à cause des États-Unis et des Russes, on ne peut pas dire que dans l'histoire on n'en est pas connu. Enfin, on se souvient de ce à quoi ressemblait la guerre froide, on se souvient de ces moments où on a vraiment cru qu'à un moment quelqu'un allait se prendre une bombe nucléaire sur la figure. Il y a eu ces moments-là. Pourquoi est-ce que ça semble plus grave aujourd'hui? Est-ce que c'est plus grave aujourd'hui ou pas?
C'est d'une autre nature. C'est sûr que si on compare avec le risque nucléaire de la crise de Cuba, par exemple, qui a été peut-être le plus proche qu'on ait approché de l'annihilation de la planète, on peut dire que c'est moins grave aujourd'hui. Mais je pense que c'est ce qui est perturbant, et pour revenir à ce que disait l'auditeur tout à l'heure, c'est qu'on a notre monde qui s'écroule, c'est-à-dire que toutes les certitudes avec lesquelles on a grandi pendant des décennies sont aujourd'hui complètement mises à mal.
La certitude, c'était de dire la paix est la norme, la guerre est l'exception.
Oui, oui, absolument, et on pensait que c'était fini, que l'Europe, effectivement, comme dit Marion, était ce rempart contre la guerre. Mais là où je vais prendre ma casquette de président de Reporters sans frontières, la question de l'information, elle est fondamentale, parce que c'est aussi un terrain d'affrontement et un champ de bataille, l'information. La désinformation est une des armes de la guerre hybride qui est menée à travers le monde aujourd'hui. Et peut-être que c'est le moment, au contraire, plutôt que de tourner le dos à l'information, de mieux choisir et de mettre peut-être des efforts dans la sélection de sources d'informations fiables, crédibles, vérifiées, professionnelles, parce que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, c'est de lutter contre la désinformation qui vise à nous diviser, à nous miner et à nous affaiblir.
Je vais vous lire cette alerte qui vient de tomber à l'instant et qui dit que Elon Musk sera mercredi, au prochain conseil des ministres au premier conseil des ministres du second mandat de Donald Trump à la Maison Blanche. Donc ça arrive à point dans cette conversation, ça arrive à point surtout grâce à vous, Kadiou, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je m'interroge beaucoup sur la disparition des contre-pouvoirs. Enfin, c'est l'impression qu'on a d'ici. Aux États-Unis, on a l'impression que Trump, Musk et toute cette oligarchie sont les derniers Américains sur le territoire américain et que tout le reste a disparu. Il n'y a plus de presse, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus d'opposants politiques, il n'y a plus de scientifiques qui pourrait s'exprimer pas que sur la guerre, sur l'environnement, etc. On connaît les positions de l'Europe, on connaît les positions de la France, mais aux États-Unis, à part celles de Musk, de Trump et tutti quanti, on ne connaît rien, on n'a pas d'infos.
Merci beaucoup, Kadiou. Vraie bonne question, Corentin Célin, sur les contre-pouvoirs. Les syndicats, alors on sait comment ça fonctionne aux États-Unis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congrès. Comment ça se fait qu'on n'entend personne? C'est la rue même qui m'intéresse. Enfin, si alors, ça avait été nous, on serait tous dans la rue avec des grosses panneaux.
On va, pour répondre à Kadiou, on va faire un dégradé. On va partir des contre-pouvoirs essentiels. Bon, au Congrès, Trump peut compter déjà sur une majorité républicaine pas large, mais assez confortable au Sénat, beaucoup plus resserré à la Chambre des représentants, sauf que la grande nouveauté par rapport à 2017, c'est que ce parti républicain est totalement trumpisé.
Oui, mais justement, pardon de vous interrompre, mais pour autant, il n'y va pas. Il ne signe que des executive orders. Or, de toute façon, s'il passait par le Congrès, il aurait la majorité.
Alors, il n'y va pas parce que, justement, c'est surtout, on le voit là, encore avec les discussions budgétaires qui vont être très compliquées, parce qu'il a vraiment une toute petite majorité à la Chambre des représentants. Mais quand même, la première leçon sur ce la disparition des contre-pouvoirs, c'est que en interne, il n'est plus du tout contesté. Et on a d'ailleurs eu cette image assez symbolique. On se souvient de Mitch McConnell, l'ancien leader des sénateurs républicains, qui avait été un moment une sorte de force modératrice en 2017 contre Trump, et qui a annoncé qu'il ne se représentait pas, puisqu'il est très âgé, il a eu plusieurs accidents de santé, et qui a été le seul à oser voter contre certains choix ministériels de Trump. Et ça avait quelque chose d'assez pathétique de voir cet homme, ce roi lire, McConnell, complètement abandonné par son parti, qui est désormais celui de Trump. Donc le parti républicain est celui de Trump. Les démocrates, silence radio. Pourquoi ? Parce que les démocrates, il y a le poids de la défaite, le poids de la responsabilité de la défaite, et cet énorme problème, mais c'est ça qui est historique et coutumier dans la politique américaine, c'est qu'aux États-Unis, les élections fédérales, c'est tous les deux ans. Dans 20 mois, on a déjà des midterms. Donc, on n'a pas le temps de se remettre en cause. Donc, on se met en route pour les prochaines élections, sauf que les démocrates, ils auraient besoin de faire un adjournamento, une réflexion. Pourquoi a-t-on perdu le vote populaire ? Pourquoi le vote populaire a basculé en faveur de Trump ? Et donc, il n'y a pas d'adjournamento, il n'y a pas de nouvelles propositions. Alors, il y a quelques individualités qui essayent de se préparer pour le prochain cycle présidentiel, bon, comme le sénateur du Connecticut, Murphy, mais en attendant, donc pas d'opposition démocrate audible. Par ailleurs, il y a une presse qui est ankylosée à la fois, parce qu'il y a le choc, parce que je crois que ça, on l'a pas assez dit, que Donald Trump puisse l'emporter de nouveau en novembre dernier, tout le monde le pensait. Mais il y avait cette idée, oui, mais s'il l'emporte, il n'aura pas la majorité des voix, comme en 2016. Là, il a été majoritaire. Ça veut dire qu'il y a une majorité d'Américains qui ont voté pour lui. Et la presse, elle s'interroge, il y a beaucoup de journalistes, qu'est-ce qu'on a raté ? Et en plus, ces journalistes, ils sont pris entre des milliardaires propriétaires de journaux, on a vu ça avec Jeff Bezos au Washington Post, qui commencent à mettre des limites, à dire il faudrait peut-être pas écrire ça, il faudrait peut-être pas dire ça. Donc c'est très difficile de travailler dans un média avec un propriétaire qui commence à se rapprocher du pouvoir. Et d'autre part, cette presse, Trump et son camp montrent les dents. C'est-à-dire que Trump a multiplié les procédures judiciaires contre la presse, et ça nous amène au quatrième et dernier grand contre-pouvoir. Alors, pour l'instant, ça il faut le dire, et pourra peut-être rassurer Caillou, il y a les juges qui jugent en droit et qui, pour l'instant, bloquent beaucoup des initiatives de Donald Trump. Pas toutes, hein, par contre.
Enfin, beaucoup.
Certaines. C'est vrai que, par contre, le travail de Musk...
J'ai lu quelque part que sur l'intégralité de ce qui était tombé là, sur la tête des Américains, il y en avait 10% qui étaient devant les tribunaux. 10%, c'est pas beaucoup.
Oui, mais par contre, des juges ont quand même déjà rendu des opinions, des arrêts contraires. Le seul problème, c'est que on a une Cour suprême qui, au sommet, paraît plus favorable à Trump. Et surtout, on a quand même, et ça il faut le rappeler, Vance comme Musk, alors Trump s'est pas aventuré, qui ont dit les juges n'ont pas à arrêter Donald Trump. C'est-à-dire que là, on s'attaque à la racine même de l'état de droit.
Et c'est ce que vous disiez, Marion, sur... est-ce qu'on le dit comme ça ? Est-ce qu'on est c'est ça. Jusqu'à quel point on a sombré déjà aux États-Unis dans l'illibéralisme ou pas ? Est-ce que vous dites oui, on est en train d'y aller ? Est-ce qu'on est sur la... On est où par rapport à l'illibéralisme ?
Je suis moins spécialiste évidemment que Corentin sur les États-Unis, mais c'est vrai que en comparant la proximité qui existait entre les États-Unis et l'Europe sur justement l'organisation d'État de droit, c'est ce qui fondait notre alliance fondamentale et cet attachement au check and balance, au contre-pouvoir, on voit bien que Trump et quand j'entends les gens dire mais il faut minimiser l'importance du Trump 2 puisque le Trump 1, finalement, n'a pas été un dictateur, c'est pas tout à fait vrai. Il a déjà contribué à abîmer la démocratie. Il a quand même fait remplacer un maximum de juges fédéraux dans les cours d'appel des différents États. Il a, comme on sait, réussi à renverser la majorité des juges de la Cour suprême en sa faveur. Donc, et son modèle, il faut, et c'est là qu'il y a de nouveau un lien avec l'Europe, c'est qu'il y a un modèle très fort, et étonnamment qui vient d'un tout petit pays de l'Union européenne, qui est la Hongrie de Viktor Orban, et des liens qui se sont institués entre la Heritage Foundation, c'est-à-dire le think tank qui est à la base du trumpisme, qui a théorisé ce que Trump est incapable de théoriser, parce que c'est pas lui un conceptuel.
L'horizon 2025.
Mais voilà, l'horizon 2025, et qui s'est véritablement inspiré de l'illibéralisme, lui aussi conceptualisé par Viktor Orban, même si le mot est apparu d'abord dans le livre de ce journaliste de CNN
Farid Zakarian.
Farid Zakarian, oui, qui a théorisé ce concept, mais Viktor Orban, qui en entouré vraiment d'une équipe d'intellectuels puissants et qui réfléchit sur ce que c'est que la manière de prendre en main la démocratie, a conceptualisé et théorisé ça. Et ça veut dire que c'est une démocratie qui ne se limite pas au moment de l'élection, parce que ce sont des gens qui sont élus de manière démocratique, mais une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils considèrent que l'État leur appartient, que ça devient leur propriété. Et ça, c'est exactement...
Au fond, la démocratie est réduite au suffrage universel.
Voilà, et après, une fois, et on sent... Et ce qui est très caractéristique chez Donald Trump, c'est que quand vous écoutez ses discours, il parle de, il dit mes juges, mes policiers. C'est, l'État est devenu à lui. On voit en effet le ménage aussi qu'il opère dans le fait qu'il est licencié quand même tous ceux qui au FBI ou au département de la justice ont enquêté sur la question de l'attaque du Capitole. Enfin, on voit bien que il met en place cet illibéralisme. Il y a même Steve Bannon et d'autres, un membre de la Chambre des représentants, qui ont parlé d'une élection à vie, qu'il fallait essayer de mettre en place son élection à vie. Enfin, on voit très bien le chemin qu'il est en train de prendre. Ouais. Va-t-il y arriver? Je ne sais pas, parce que pour le coup, les institutions américaines, c'est plus solide que la Hongrie, malgré tout.
Alors, Pierre, rapidement, et puis ensuite, on retourne au standard.
Oui, juste un mot. Donald Trump a cité dans un de ses innombrables tweets une phrase attribuée à Napoléon, qui est « Celui qui sauve son pays ne viole pas la loi ».
Oui, c'est vrai. Ouais.
Ce qui résume son état d'esprit, c'est-à-dire qu'il pense qu'il est en train de sauver l'Amérique du désastre de ses prédécesseurs, et que de ce fait, il ne peut pas être dans l'illégalité.
C'était même l'esprit du 6 janvier, d'une certaine façon. Je voudrais qu'on écoute Boris, qui nous attend depuis un moment. Bonsoir Boris.
Bonsoir à tous.
On vous écoute.
Oui, je partage toutes ces inquiétudes et vos analyses. Je voulais apporter au débat un point. La petite lueur, moi, que j'ai ces derniers temps, c'est que ces derniers jours et heures, c'est que Wall Street baisse, que l'économie peut décrocher. Le cours de Tesla se crache en ce moment, le Bitcoin aussi. Et pour moi, ces hommes, Trump et Musk, ne jurent que par l'argent. C'est leur cheval d'orgueil. Et une déstabilisation économique qu'ils sont en train de générer. Finalement, c'est peut-être le seul outil de modération qu'il peut y avoir, c'est Wall Street, en fait, pour les empêcher d'aller plus loin. Ils ne pensent qu'à l'argent. L'Ukraine n'est traitée que par le biais des dollars dépensés et des terres rares accessibles. Et en fait, c'est là les alertes de Warren Buffett, de beaucoup d'investisseurs. Et le potentiel krach financier qui se prépare peut les retenir, en fait. Pour moi, c'est le tropisme américain, c'est l'argent, c'est le dollar. Et c'est la seule chose qui peut les retenir.
Merci beaucoup, Boris. Est-ce qu'il n'a pas raison, Boris Pieraski, de se dire... ce qu'on a vu de Donald Trump jusqu'à présent, c'est qu'en plus, il mélange tout. C'est-à-dire, il est capable d'échanger des droits de douane contre des migrants. Enfin, on est dans une espèce de gloubi-boulga de ce genre-là. L'argent, ça compte énormément. Il a raison. Si demain, la bourse s'effondre, et j'irai même plus loin, si demain, son taux de popularité s'effondre, parce que c'est un gars qui aime bien dire qu'il est le premier. Est-ce qu'au fond, c'est pas par là que les choses passent?
Alors, finiront
par intéresser aussi l'Ukraine.
C'est possible, en effet, même si pour l'instant, on a plutôt vu les puissances d'argent aux États-Unis se rallier à Donald Trump, notamment tous les géants de la tech.
Ils sont ralliés, mais Musk est en train de perdre un peu d'argent. Alors, je dis un peu parce que 40 milliards, quand on en a 400.
Oui, c'est pas très important. Mais c'est vrai que ce qui est aussi, mais toujours lié à l'argent, le retour de l'inflation. J'étais frappé aux États-Unis, tout le monde parle du prix des œufs qui a atteint des stratosphères.
On est à 8 euros, je crois, voilà. C'était 3 euros.
Ouais. Or, c'est sur l'inflation qu'il a bâti une partie de sa victoire, en blâmant Joe Biden pour ça. Or, aujourd'hui, cette inflation, elle lui appartient à lui, et toute sa politique de droits de douane et de guerre commerciale qu'il est en train de lancer à travers la planète aura un impact inflationniste, en tout cas dans un premier temps, et il a le regard en permanence sur les sondages, évidemment. À la conférence de presse avec Emmanuel Macron, il y a eu un moment très, très drôle. C'est la première question attribuée par Donald Trump à un journaliste américain. C'était « Monsieur le Président, vous avez des sondages formidables, comment faites-vous ?» question téléguidée.
Est-ce que les sondages sont en train de descendre
Alors que les sondages sont en train de descendre. Mais c'est la méthode Coué. On répand l'idée qu'il ne peut être que le président le plus populaire de l'histoire.
Exactement, mais quand même là-dessus, Corentin Célin, on se souvient très bien, à sa première investiture, il fallait qu'il ait une foule qui était plus importante que celle d'Obama, c'était absolument pas le cas, mais il fallait qu'il le dise. Il est le meilleur président, il a des mots vraiment qui disent ça. Donc, est-ce qu'on peut pas se dire, parce qu'on est quand même dans des choses qui sont très irrationnelles en ce moment, que si un moment sa popularité commence à tanguer, que ce soit sur des problèmes inflationnistes ou sur autre chose, j'ai envie de dire peu importe, la popularité commence à tanguer, est-ce que ça ne lui fait pas tout simplement mettre le pied sur le frein, ce garçon?
Oui, mais justement, alors je rebondis sur l'anecdote que rapportait Pierre Aski. Le problème, c'est qu'hier soir, justement, c'était un journaliste d'un média ami qui lui posait une question sur un sondage qui est connu pour lui être très favorable. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'avec l'évolution de l'écosystème médiatique, aujourd'hui, le président des États-Unis peut rester enfermé dans une bulle composée à la fois des réseaux sociaux, dont son réseau social à lui, hein, d'ailleurs, ce qui pourrait nous interroger, et de médias dont certains sont vraiment maintenant des médias, j'allais dire, que ce soit Fox News à la télévision, ou, qui sont proches du pouvoir, on a ses propres sondages, il peut rester très longtemps dans sa propre bulle. Là, je parle vraiment pour ce qui est de l'information. Et donc, peut-être que l'impact sera moindre. Deuxièmement, il y a une dynamique qui est quand même très particulière en ce moment, c'est la place prise, on y faisait allusion, par Elon Musk. C'est-à-dire qu'on a un peu une présidence à deux têtes. D'ailleurs, hier, Musk a été beaucoup cité pendant la conférence de presse. On lui a posé beaucoup de questions sur Musk à Trump pendant la conférence de presse avec le président Macron, parce que Elon Musk occupe une place quand même prépondérante, et on le disait, il va assister à la première réunion du cabinet. Et on peut se demander si... Et Musk paraît, lui, beaucoup plus déterminé. Il a vraiment une... Il est dans une croisade contre l'État. Il veut détruire l'État. Enfin, il y a quand même quelque chose de vraiment de cet ordre-là. Et lui, on a l'impression que rien ne pourra l'arrêter. Donc, tout ça réuni fait que... peut-être que les freins sont plus aussi forts qu'il y a 4 ans, par exemple.
On n'a pas le temps de prendre la question d'Elisabeth, on l'embrasse quand même, et qui dit la bonne solution, c'est d'arrêter de parler, comme à chaque intervention de Trump et de Musk, on en parle, il faudrait arrêter de le faire. Et elle dit aussi, il faut que l'Europe acte et qu'elle le fasse d'urgence. Marion Van Rintergem, l'Europe acte, ça, pour l'instant, on le voit, on verra bien avec quelle efficacité derrière.
Et ça n'est pas perdu, et il faut bien comprendre qu'on sort de l'Union européenne. Quand on parle de l'Europe, c'est l'Union européenne, quelques pays de l'Union européenne, pas tous.
Et les Anglais qui
les Britanniques, sont redevenus nos amis, en tout cas sur ce point-là. Et pays de l'OTAN qui souhaitent s'adjoindre. Et c'est très important parce que les affaires étrangères, la diplomatie n'étant pas une compétence exclusive de l'Union européenne, tout ce qui se décide doit se faire à l'unanimité. C'est absolument impossible, ne serait-ce qu'avec la Hongrie, qui joue le rôle de traître et de cheval de Troie, ami de Poutine et de Trump dans cette affaire. Et donc, il faut, et là je pense qu'Emmanuel Macron a eu raison, avec le Premier ministre polonais d'ailleurs, Donald Tusk, qui joue un rôle important dans cette affaire, qui assure la présidence tournante du Conseil européen, et donc à la tête de la Pologne, qui devient la première armée conventionnelle d'Europe en termes d'hommes et de moyens, et avec évidemment le Premier ministre britannique Keir Starmer, autre puissance nucléaire. Ça fait quand même deux puissances nucléaires au cœur de ce continent, de ces Européens qui sortent totalement du cadre de l'Union européenne et qui a les moyens malgré tout d'avancer dans une organisation de défense. Ce que Macron et Starmer essayent d'obtenir de Trump, c'est qu'au moins ils le mettent à disposition, ils ne s'opposent pas dans le cadre d'une éventuelle mise en place d'une force européenne pour garantir les sécurités de l'Ukraine, qu'ils mettent à disposition les infrastructures de l'OTAN et qu'ils ne s'opposent pas à cette présence.
Pierre, il nous reste une petite poignée de secondes. Pardon de vous faire de la politique fiction, mais est-ce qu'on peut se dire que quand ce train-là est lancé, de toute façon, on ne sait pas encore sous quelle forme, mais on entre dans une période de négociation s'agissant de l'Ukraine, là maintenant?
Oui, je pense que c'est clair, et en particulier, ça va se passer lors de cette rencontre entre Trump et Poutine, d'où l'importance de toute cette agitation diplomatique avant ce sommet Trump-Poutine, qui sera évidemment décisif, à la fois pour l'Ukraine, mais aussi pour la sécurité du monde.
Eh bien écoutez, on y reviendra, parce que vous avez été très très nombreux à nous appeler ce soir. On reviendra aussi sur les fameux contre-pouvoirs, parce que ça défile de questions sur les contre-pouvoirs américains. Merci à tous les trois, merci à tous pour vos nombreuses questions. Il est 20h sur Internet.